On a voulu ces témoignages pour que vous puissiez nous raconter votre histoire, votre parcours semé de doutes, d'angoisses, mais aussi d'espoir et de joie. La communauté Fertinity, ce sont des femmes, des hommes, des couples qui vivent des situations d'infertilité telles que la PMA, les fausses couches, l'infertilité inexpliquée, l'endométriose, le SOPK ou encore l'insuffisance ovarienne.
Aujourd'hui, nous recevons Pauline. Bonjour.
Bonjour Marianne.
Pauline, j'avais envie qu'on puisse discuter ensemble aujourd'hui, notamment parce que je te suis sur Instagram et j'avais envie que tu puisses nous parler un peu de ton parcours. Est-ce que tu peux commencer par te présenter ?
Oui, alors moi je suis Pauline, du coup j'ai 33 ans, je suis infirmière en réanimation, je suis de Strasbourg et je suis en parcours de PMA depuis 3 ans et demi.
Est-ce que tu es mariée ? Est-ce que tu as un compagnon donc ?
Oui, effectivement, je suis mariée avec Arnaud depuis un peu plus de 5 ans et en couple depuis 12 ans.
D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours, peut-être le démarrer par quand est-ce que vous est venue l'envie d'avoir un bébé et la découverte de ton infertilité?
Oui, alors nous, on a toujours voulu avoir des enfants depuis qu'on s'est mis en couple. On était très jeunes, hein, j'avais 21 ans. On a toujours dit qu'on voulait avoir des enfants. Et puis, on a toujours un petit peu attendu le bon moment d'être fonctionnaire. Enfin, nous deux, on est fonctionnaires, mais d'être fonctionnaire ou d'avoir un CDI, d'avoir une situation stable pour pouvoir accueillir un enfant dans les meilleures conditions. Mmh. Ce jour-là est arrivé en mois de juillet 2018, où on a décidé, j'arrête la pilule. Et puis voilà, les mois se faisant, j'ai commencé à consulter ma gynécologue au mois de novembre 2018, donc 4 mois après, parce que j'avais des cycles très très longs, c'est-à-dire qu'en 4 mois, j'ai eu deux cycles. Et bien évidemment, je m'étais un petit peu renseignée et j'avais un petit peu peur d'avoir le syndrome des ovaires polykystiques. Mm-hmm. Donc j'ai tout de suite consulté. Et en fait, ma gynéco a été très rassurante. Il s'avère que je n'ai absolument pas ce syndrome. C'est juste que mon corps a mis un petit peu de temps à remettre la machine en route après une prise de pilule pendant de très nombreuses années. Mm-hmm. Donc, suite à ça, le problème s'est réglé tout de suite quelques mois après. Et là, par contre, on a discuté avec ma gynécologue et puis mon mari s'était fait opérer quand il était petit d'une ectopie testiculaire. Et du coup, elle m'a dit, ce serait peut-être intéressant de faire un spermogramme, mm-hmm. juste histoire de voir. Pas de pression, vous êtes qu'à 4 mois d'essai naturellement.
Oui, c'était encore tôt.
Voilà, c'était encore mm-hmm. très tôt. Ne vous mettez pas de pression, voilà. Donc, je rentre à la maison, j'en parle à mon conjoint qui, bien évidemment, je n'ai jamais refusé de le faire, mais bien évidemment, il faut un petit peu se laisser du temps d'accepter tout ça. Donc, on s'est dit, on laisse les fêtes de fin d'année passer, le début d'année, et puis, il le fera quand il se sentira prêt, tout simplement.
Mm-hmm. Donc, petite question, Pauline, cette gynécologue, c'était ta gynécologue habituelle, je dirais, et elle n'est pas spécialisée en infertilité.
Alors, c'était ma gynécologue que je voyais depuis des années. D'accord. Et en fait, il s'avère que j'ai eu énormément de chance parce que cette gynécologue travaille avec mon centre de PMA.
Ah ouais, super. Ouais.
Donc en fait, j'ai eu énormément de chance parce que c'est elle qui m'a toujours suivie et c'est elle qui me suit encore le jour d'aujourd'hui, même dans mon parcours de PMA.
Mais tu ne l'avais pas choisie évidemment pour ça, puisque à l'époque, tu ne pensais pas avoir de problématiques spécifiques.
Ouais. Non, pas du tout. Je ne l'ai pas du tout choisie pour ça. C'est vraiment juste très bien tombé.
D'accord. Et juste, on en revient à ton conjoint. C'est vrai qu'on en parle assez souvent quand même du fait que les hommes n'ont pas forcément envie d'aller faire ces examens, même si c'est sûr qu'on en a beaucoup plus qu'eux en général à faire. Donc là, tu me dis, vous vous êtes laissé un petit peu de temps, vous êtes dit, on passe les fêtes, on voit un petit peu ce qui se passe, et après, il est allé faire cet examen?
Oui, et après, il est allé faire cet examen au mois de mars.
D'accord.
Il est allé au mois de mars sans souci. Bon, après, bien évidemment, hein,
joyeux.
C'est pas joyeux, mais il y est allé. Entre-temps, moi, j'avais déjà fait tous les examens. Elle m'avait demandé de faire grosse prise de sang, une hystérosalpingographie au cas où. Enfin, elle m'avait demandé de faire déjà plein d'examens. Moi, je les avais déjà tous faits. Hein. Moi, je suis comme ça.
Oui, oui.
Je fais tout très rapidement. Voilà. Et,
mais finalement, elle te les a demandés assez vite parce qu'elle te disait pas de problème, on attend un peu. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gynécologues qui disent on attend de voir passer une année.
Oui.
Sauf si on a plus de 35 ans et là peut-être qu'au bout de 6 mois on se pose la question. Mais toi, t'étais jeune, enfin, t'es toujours jeune, mais je veux dire, quand t'as commencé, t'étais jeune et finalement elle a embrayé peut-être parce qu'elle est aussi spécialisée un peu infertilité puisqu'elle travaille avec le centre de PMA. Peut-être qu'elle a elle a fait ça plus rapidement pour toi.
Oui, je pense aussi, du coup, j'étais à l'aube de mes 30 ans et je pense que, ben voilà, 30 ans,
ben oui.
C'est encore jeune, hein, mais pour tout ce qui est PMA, ben, au-delà de 30 ans, c'est, faut quand même réagir, quoi.
Bien sûr.
Et clairement, je pense que la chance que j'ai eue avec cette gynéco, c'est qu'elle fait de la PMA, en fait. Donc, elle m'a ben tout de suite tout prescrit. Bien évidemment, elle m'a dit, vous pouvez attendre 6 mois, même un peu plus, il n'y a pas d'urgence, mais elle m'a tout prescrit. Au cas où qu'on fasse les examens si ça ne vient pas. Mais
moi, bon, et toi, tu as tout fait.
Voilà.
Et qu'est-ce qu'il en est ressorti de tous ces examens?
Alors, de mon côté, je n'avais absolument rien. Absolument
D'accord.
rien. Tout était très bon.
Et
du côté de mon mari, du coup, on a découvert qu'il était OATS, donc oligo-asténo-tératosospermie.
Mm-hmm.
Donc, c'est les spermatozoïdes qui est en très petit nombre, qui ne sont pas mobiles ou très faiblement et qui sont mal formés. Notamment, mon mari, ils étaient tous mal formés à 98%.
D'accord.
Donc, suite à ce diagnostic, on nous a orientés directement vers une FIV ICSI.
Et oui, et d'où l'importance de cet examen, parce que ça t'ouvre la porte de la FIV ICSI tout de suite. On n'attend plus là. On espère
Exactement.
Que ça arrive tout seul, bien sûr. D'accord. Et donc, comment ça s'est passé? Là, donc toi, on t'indique ce centre de PMA, mais de toute façon, ta gynécologue y travaillait.
Oui.
À côté de chez toi, loin, c'était compliqué?
Alors non, c'était absolument pas compliqué parce que mon centre de PMA est sur Strasbourg. Moi, j'habite un petit peu en périphérie, on va dire à un quart d'heure de cet hôpital. Et puis non, ça n'a jamais été compliqué. En plus, je fais partie du même groupe hospitalier. Donc vraiment, ça a toujours été très simple par rapport à ce centre.
D'accord. OK. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu le démarrage du parcours? Comment est-ce que ça se passe? Comment tu es accueillie? Comment toi, tu l'accueilles aussi, cette difficulté? Dans quel état d'esprit tu es?
Alors, dans quel état d'esprit? On va dire que mon mari et moi, bizarrement, on s'est toujours dit, on est sûr qu'on va galérer. Bizarrement, on en a toujours parlé avant même d'avoir arrêté la pilule, surtout mon mari. Hein. Mon mari, il a toujours su, déjà adolescent, il a toujours dit « je vais avoir du mal à avoir des enfants ».
Bah, parce qu'il a eu ce problème de santé aussi qui devait un peu porter, non? Enfin, finalement, c'est peut-être ça qui l'a fait dire ce genre de choses.
Je ne sais pas trop, mais je pense pas forcément parce que cette opération, quand elle est faite très jeune, normalement, il ne devrait pas du tout y avoir de soucis.
Ah
et
oui,
s'il y a un souci, ben, c'était vraiment juste sur un testicule, donc l'autre prend le relais. Il s'avère qu'après, on a trouvé le pourquoi, mais ce n'était pas du tout lié à cette
D'accord.
chirurgie quand il était petit. C'était vraiment un ressenti. En tout cas, ce qui est, quand on lui en parle et qu'on lui demande, c'est vraiment un ressenti de sa part.
D'accord. Et toi, pareil?
Je me suis un peu laissée influencer par ce que me disait mon mari.
D'accord, oui, bah oui, bien sûr. D'accord.
Forcément.
Et puis, tu as été infirmière dans le milieu de la santé. Peut-être que tu as un côté, il peut se passer des choses. Tu es peut-être un petit peu plus ouverte à tout ça aussi.
Oui, tout à fait.
Malheureusement, entre guillemets, puisque.
Oui, malheureusement.
Ouais, d'accord. Donc, bon, l'état d'esprit, vous saviez. Donc, au final, ce n'était pas une grande surprise ni une découverte, quoi. Allons-y, on va devoir passer par la FIV. Allons-y, quoi.
Oui, voilà, c'était allons-y. Après,
D'accord.
bien évidemment, hein, le diagnostic, c'est un coup de massue, hein, qu'on se prend, mais voilà, on l'a très vite accepté, et on y est très vite allé.
Et vos familles, vos amis?
Alors, nos familles, on leur a dit, hein, bien évidemment, ils sont tous au courant. Ils étaient tristes, hein, pour nous, hein, voilà, ils étaient tristes pour nous. Après, c'est à nous, c'est notre combat, quoi.
Bien sûr, bien
C'est
sûr.
notre combat. Et après, du côté de nos amis, la plupart des gens ont été très, très encourageants. Et puis, bien évidemment, hein, ce qu'on peut dire de ce parcours, c'est qu'on fait le tri aussi dans nos amis. On a
Ah
perdu
oui.
des amis en cours de route qui ne comprenaient pas certaines fois où on ne pouvait pas aller à certains événements. Où on avait certaines réactions, enfin voilà. Donc, on a perdu des amis en cours de route, des mots qui ont été très blessants,
Ah oui, les maladresses, on les connaît, hein.
les
Elles sont souvent
maladresses, on les connaît.
terribles.
Ouais, les maladresses ou alors les silences.
Oui, mais tu as
Ah
raison,
ouais.
tu as tout à fait raison de parler de ça aussi, parce que les maladresses, quand je dis on les connaît, on a tout entendu, les ah, oh, pars en vacances, ou machin, arrête d'y penser, ou
Ouais.
oh, ça va venir, donc en gros, arrête de nous en parler, ou en tout cas, arrête d'être triste. Mais les silences sont terribles parce que souvent, ils peuvent être pleins de bienveillance quand même, les personnes ne savent plus quoi dire, ne savent pas si elles vont dire quelque chose de pas adapté, donc se taisent. Ou celle qui, bon, ben on va pas en parler, quoi. Ça n'existe pas. Et
Ouais.
ça, c'est terrible aussi.
Ouais, moi je pense que ce qui me blesse le plus, c'est effectivement ce silence que j'ai pu avoir de certains amis très proches ou même de la part de la famille, hein.
Bien sûr.
Ce silence, pour moi, je l'interprétais comme un manque de soutien.
Eh oui, eh oui.
Voilà, parce que ce silence pouvait durer des mois. Voilà.
Oui, c'est sûr que c'est pas évident et en parler pour pouvoir un peu couper silence en disant on peut en parler, c'est pas tabou, etc. C'est tellement pas simple non plus. Donc
Oui,
de
c'est
toute
vrai.
façon, c'est un peu le chien qui se mord la queue dans ces
C'est
situations-là. On ne
sûr,
sait plus trop
c'est sûr.
ce qu'on veut, mais en tout cas, on ne veut pas de tout ça. Ouais.
C'est sûr. Bon, après, on a toujours
D'accord.
été clair avec nos amis et nos familles, c'est pas de tabou. Nous, on n'a pas forcément envie d'en parler de nous-mêmes parce que je pense que ça. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas même les techniques. Les techniques, parce que c'est vraiment très, très médicalisé. Donc, les gens, clairement, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas comprendre toute la technique qu'il y a autour de la
Bien sûr.
FIV. Mais on a toujours. Ben, voilà, on se restreignait à en parler de nous-mêmes parce qu'on n'a pas non plus envie de parler de ça H24. Mais c'est vrai que, moi, en tout cas, de mon côté, le fait qu'on ne m'en parlait pas ou très peu, c'est ça qui me dérangeait le plus, en fait, et qui me dérange toujours à l'heure actuelle.
D'accord, ouais, je comprends. Donc tu commences le parcours, donc il y a une première FIF qui arrive rapidement.
Oui, alors on a eu notre premier rendez-vous, on a déjà eu la réunion pluridisciplinaire qu'il faut faire. C'était fin mai, on a eu rendez-vous avec le biologiste en mois de juin 2019. Et ensuite, on a commencé notre première FIV. Du coup, c'était en septembre 2019.
D'accord.
Voilà.
Ouais. Et ça s'est passé comment?
Alors, ça s'est bien passé. Ça s'est vraiment très bien passé. Je n'ai pas eu beaucoup d'effets secondaires.
D'accord.
La ponction s'est vraiment très bien passée. En plus, l'anesthésiste du bloc, c'était un ancien collègue que je connaissais bien, avec qui on a pas
Ah,
mal parlé,
super. Ouais.
aussi rigolé en salle de réveil. Ben voilà, il m'a laissé ils m'ont un petit peu chouchoutée, quoi,
Oui,
comme on
oui.
se connaissait, ils m'ont un petit peu chouchoutée. C'est vrai que moi, la ponction, je ne l'ai pas du tout mal vécue. Au contraire, j'ai trouvé que c'était vraiment le moment, le meilleur moment, en fait, de cette FIV, parce que je me sentais vraiment dans un cocon. Je me sentais bien, en fait, dans ma bulle, où tout le monde prenait soin de moi. Voilà.
Et avec beaucoup
Et...
d'espoir aussi. C'est le moment
Oui,
où tu
oui.
te dis, ça y est, c'est maintenant.
Oui,
Ouais.
tout à fait, c'est maintenant. En plus, on avait
D'accord.
eu une très bonne récolte. Du coup, on avait
D'accord.
récolté 12 ovocytes. Et sur les 12 ovocytes, il y en avait 11 qui étaient matures
D'accord.
et qui ont pu être micro-injectés, du coup,
Oh,
par
super.
les spermatozoïdes de mon mari. Et puis ensuite, ben, on rentre à la maison et puis c'est l'attente de deux appels.
Ouais.
Alors, mon centre va systématiquement jusqu'à J5 sur les embryons qui ont 5 jours.
D'accord.
On appelle des blastocystes. C'est ceux qui ont le plus de chances au final de donner une grossesse. Et donc, en fait, le biologiste nous appelle à J3 pour nous donner le nombre d'embryons qui ont tenu jusqu'à J3. Donc, nous, à J3, on en avait 8. Donc, ce qui était vraiment très bon. Et après, il nous a appelé le jour du transfert pour nous dire combien il y avait d'embryons qui nous restaient, qui ont tenu jusqu'à J5, et puis la date du transfert ou
Bien
pas.
sûr.
Donc, c'était vraiment le jour le plus stressant, je pense, parce qu'on se disait, oh là là, mais imagine en fait, si on n'a pas du tout d'embryons qui ont tenu jusqu'à J5, on n'aura pas de transfert, il faudra tout recommencer, enfin voilà, gros
Ah, c'est le
stress.
stress et c'est les montagnes russes, hein, comme on
Ah
dit,
oui,
hein. Et oui,
clairement. Et
complètement,
donc,
oui.
clairement. Et donc là, le biologiste nous appelle et il nous dit que ben, il y en a 6 J5 qui ont tenu. Il y en a 2 qui sont pas très bons,
D'accord.
mais qui va essayer de pousser jusqu'à J6 donc le lendemain, mais sans certitude.
D'accord.
Et il y a 4 très très bons et vraiment excellents blastocystes
D'accord.
qui sont très bons.
Donc super,
Donc
pleine d'espoir là.
Ah oui,
Ouais.
ben déjà, juste avoir 4 J5, c'était vraiment excellent.
D'accord.
Surtout de
Okay.
cette qualité-là. Donc, 1 heure après, nous voilà avec la vessie pleine au centre de PMA, la vessie pleine pour qu'ils puissent bien visualiser l'utérus pour faire le transfert.
Mais oui, pas très agréable, ouais.
Pas du tout agréable, surtout quand avant on a les rendez-vous du coup avec le biologiste, ensuite on a le rendez-vous avec la sage-femme. Avant le transfert, on est là, on a très 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 envie de faire pipi et la vessie prête à exploser.
Et on n'écoute plus rien, déjà.
Ouais, non mais clairement, clairement, on est vraiment
Ah, c'est marrant.
focalisé sur il faut pas que je fasse pipi là.
Ouais. Mais je pense qu'ils le savent bien, donc
Oui.
voilà.
Ouais,
Ouais,
ils
bien
le
sûr.
savent bien, ils sont quand même assez ils vont quand même assez vite dans leurs explications, ils ne traînent pas quoi. Ils le savent, ils ne traînent pas. Donc là, on a vu le biologiste, il nous a redit qu'on avait 4 embryons de très très bonne qualité. Et on
D'accord.
a fait le transfert. Donc le transfert, c'est chouette, on voit à l'échographie notre utérus. Ensuite, on voit notre embryon arriver dans une grosse pipette qu'ils introduisent du coup dans le col de l'utérus et dans l'utérus. Et puis à l'échographie, ben, on voit cette jolie petite bulle avec l'embryon à l'intérieur. Ben, bien évidemment, on ne voit pas l'embryon. C'est beaucoup trop petit, mais on voit cette belle bulle qui se dépose au fond de l'utérus et c'est beau à voir. Très, très beau
Bien
à
sûr.
voir. Voilà, et puis après, ben, les 2 semaines d'attente.
Ouais, qui sont terribles, bien sûr.
Ils
Et
sont terribles.
ouais. Là, c'est l'infini, là.
Ouais, clairement, c'est terrible.
Et alors, le résultat?
Et alors, le résultat, j'avais fait plusieurs tests urinaires, bien évidemment. L'impatiente que je suis ne peut pas y résister.
Bien sûr.
Et ils étaient négatifs pendant plusieurs jours. Et puis, ben, quand j'y croyais plus du tout, j'en refais un. Et puis, en fait, qui s'est avéré positif.
Ah,
Donc,
ok.
j'étais enceinte.
Oh.
Donc, je vais au labo. Et puis, je reçois les résultats quelques heures après. Et en fait, le taux était vraiment très bas par rapport au moment de la grossesse.
Oui, d'accord.
Et du coup, j'ai tout de suite compris que ça n'aboutirait pas.
D'accord. Okay. Voilà. T'as compris tout seul, ils t'ont appelé, ta gynécologue t'a donné un peu des infos là-dessus?
Alors non, moi j'ai pas spécialement contacté la gynéco, je me suis dit je fais une prise de sang quelques jours après, j'en avais fait une deux jours après, parce que généralement ils sont censés les bêta-HCG doubler toutes les 48 heures.
Tout à fait, oui.
J'ai fait une prise de sang moi-même 48 heures après, et puis en fait le taux avait stagné, donc j'ai bien compris que la grossesse n'aboutirait pas.
Ouais,
et c'est à ce moment-là du coup que j'ai contacté la gynéco, et puis qui m'a confirmé le diagnostic que je m'étais faite moi-même, quoi.
Oui, tout à fait. Donc, échec de cette FIV ICSI, en tout cas de la première, quoi.
Ouais. Oui, voilà, échec, mais avec beaucoup d'espoir, parce qu'il y a quand même eu une accroche. C'était une grossesse biochimique, donc c'est-à-dire que l'embryon s'est accroché, ouais. Et malheureusement, il a arrêté de se développer.
Oui, et finalement, tout allait bien jusqu'à... jusqu'à l'implantation. Donc au final, tu peux garder espoir en te disant voilà, ça a pris.
Oui, tout à fait.
La prochaine fois peut fonctionner. Et alors comment ça se passe après ça? Est-ce qu'on te recale une autre FIV? Comment est-ce que toi tu appréhendes tout ça?
Oui, alors du coup, je suis tout le temps dans l'état d'esprit où il faut tout de suite. Moi, je suis quelqu'un qui rebondit tout de suite et qu'il faut y aller tout de suite. Voilà. Je suis comme ça. Moi, je pense que c'est l'attente qui me tue le plus. Moi, il faut tout de suite rebondir. Je pleure un bon coup. Je suis très triste et déprimée pendant 24 heures. Et après, hop, je rebondis. C'est bon. Je suis de nouveau très heureuse, très souriante, etc. Mais il faut y aller.
T'as un bon caractère positif.
Du moins, je rebondis vite.
D'accord. OK. Et alors, voilà. On te recale une autre FIV?
Alors, on me recale un autre. Du coup, une fois qu'on a fait la FIV et qu'on a eu des embryons, on parle de transfert.
Mm-hmm. Oui.
On parle de transfert. Donc là, en fait, c'est un transfert d'embryon congelé parce que du coup, on a fait un transfert frais qui a abouti à cette grossesse biochimique et les trois autres ont été congelés.
Tout à fait.
Donc en fait on parle de transfert d'embryon congelé et on me l'a programmé au mois de novembre, sauf qu'en fait il a été annulé parce qu'ils ont vu qu'il y avait quelque chose dans mon utérus. Ils pensaient que j'étais enceinte naturellement et en fait pas du
D'accord.
tout. J'ai dû faire une hystéroscopie pour regarder ce que c'était, donc le mois d'après.
D'accord.
Et finalement il n'y avait rien du tout à l'hystéroscopie. Et on a reprogrammé un autre transfert au mois de septembre 2020 qui a D'accord. été également négatif.
Donc là, ça faisait le premier, le démarrage finalement, c'était quoi? C'était en juillet 2019, c'est ça?
Oui.
Et là, tu es en septembre 2020 et c'est négatif. D'accord.
C'est négatif, tout à fait. Donc là, il nous reste un embryon.
Et oui, c'est ça. Ouais.
Voilà. Donc là, D'accord. il nous reste un embryon. Et moi, je me dis, je veux faire des examens. Je veux faire d'autres examens parce qu'il me reste un embryon. Si je peux m'éviter de repasser par une ponction, ce serait bien. Je veux faire des examens et notamment la assez connue Matrice Lab. Donc, la Matrice Lab, c'est une biopsie de l'endomètre qui est analysée du coup par ce laboratoire qui s'appelle Matrice Lab. Et en fait, ils analysent l'immunité qu'on a dans le niveau de notre endomètre.
Mm-hmm.
Donc, on peut être en sous-activité, en suractivité ou alors en système immunitaire mixte. Donc, c'est un mélange entre la sous-activité et la suractivité.
D'accord.
Et il s'avère que moi, j'étais en suractivité. Mm-hmm. Donc, tout ce qui est système immunitaire rejetait l'embryon.
D'accord.
Okay. Donc, en fait, il fallait calmer ce système immunitaire qui était trop au taquet.
Ce qui est intéressant parce qu'au moins, tu as une réponse. C'est pas toujours des réponses qu'on aime, mais au moins... j'ai l'impression que le pire, c'est quand même quand on n'a pas de réponse du tout et quand on comprend pas ce qui se passe. Là, c'est sûr que d'avoir ça, tu te dis, bon, on va peut-être m'aider à faire quelque chose.
Oui, tout à fait. Là, moi, d'accord. à chaque fois qu'on me découvre quelque chose, c'est sûr, c'est un coup dur parce qu'il faut l'accepter. Mais c'est vrai que je suis contente d'avoir découvert des choses.
Et ta gynécologue était OK, était en contact ou en tout cas reçoit aussi les résultats?
Ah oui, c'est elle qui m'a tout fait. Moi, je suis allée la voir et c'est elle qui m'a fait la biopsie. J'ai tout fait avec elle. En fait, vraiment, c'est ma gynéco, c'est mon allié du début à la fin.
C'est super.
Elle me suit Vraiment, elle me suit dans tout ce que je souhaite, elle me suit.
Et j'ai l'impression que le moral des troupes, ça souvent, c'est un peu le côté armé. Quand on est soutenu par son ou sa gynécologue, il y a quand même un effet équipe et un effet hyper positif pour
ah oui,
accepter
clairement.
Ce qui se passe. D'accord.
Clairement. Tout
et
à
donc,
fait.
donc là, tu as eu les résultats, il y a eu un traitement. Enfin, qu'est-ce
Oui,
que tu peux nous dire là-dessus?
J'ai eu le traitement et ma gynécologue me disait que c'était bien de vérifier l'endomètre, donc de refaire une biopsie de l'endomètre
D'accord.
Sous traitement pour vérifier qu'on n'était pas passé d'une suractivité à une sous-activité, pour voir si c'était pas trop fort, si
D'accord.
le traitement n'était pas trop fort.
Okay.
Donc bon, c'est vrai que la première matrice lab, on est dans du... n'est pas remboursé, hein. On est dans du 490, quelque chose comme
oui,
ça.
Oui, oui, effectivement.
Et du coup, la matrice lab de contrôle sous traitement, on est à 390. Donc, c'est un gros budget, mais je me suis dit, on y va quand même. Et j'ai eu
oui,
l'énorme chance que ma maman nous paye ces deux biopsies. Je la remercie encore le jour
d'aujourd'hui. Ah, c'est super. Bah oui, ouais. C'est un beau
donc
cadeau.
Voilà. Oui, clairement, un très beau cadeau. Et finalement, en fait, heureusement que j'ai fait cette biopsie parce que on était un petit peu trop fort dans nos traitements.
D'accord.
Donc, on a baissé un petit peu le traitement et on a programmé un autre dernier embryon au mois d'avril 2021. Et c'était positif. Voilà.
D'accord.
J'étais enceinte.
Super, super.
Oui. C'était vraiment un très grand moment de bonheur. J'étais enceinte, on l'a annoncé à nos amis proches, on l'a annoncé à, bien évidemment, nos familles. On a fait des petites vidéos, tout le monde était content. Enfin, vraiment, c'était le moment que tout le monde attendait. On a fait plusieurs échographies, on a vu notre petit bébé grandir, le cœur battre. Enfin, voilà, c'était merveilleux.
Ouais.
Et un jour, je ne peux pas l'expliquer pourquoi, mais c'était un dimanche soir dans la nuit où je me suis dit, j'arrivais pas à dormir et je me suis dit, il y a un problème, il se passe quelque chose. Et pendant 2 jours, j'étais là, je ruminais à la maison en me disant, il se passe quelque chose, il y a un problème, il se passe quelque chose.
Et tu sentais.
Ouais, je sentais. Et là, le mercredi matin, je me suis dit non, stop. J'appelle la gynéco, je dis qu'il y a un problème, il faut qu'elle me prenne. Et du coup, elle m'a pris tout de suite. Elle a essayé de me rassurer avant l'échographie en me disant c'est normal que vous ayez des angoisses dans ce parcours, c'est un peu normal.
Évidemment.
Et en fait, on fait l'échographie et là, on se rend compte que le cœur du bébé ne bat plus.
Et là,
voilà, j'étais à 9 semaines et effectivement, le cœur du bébé s'est arrêté à peu près le dimanche quand j'ai senti. Voilà, donc ça a été vraiment un très très gros coup.
Bien sûr,
évidemment. Voilà, surtout qu'on a attendu un petit peu de voir si le bébé allait sortir tout seul, si une fausse couche spontanée allait se faire.
Ouais.
Et finalement, pas du tout, ça ne s'est jamais fait. Donc j'ai dû prendre des médicaments et être hospitalisée en hôpital de jour, du coup, pour expulser.
D'accord.
Bien évidemment, j'étais accompagnée de mon mari qui m'a énormément soutenue. Qui m'a énormément soutenue. Et puis voilà, j'ai pris les comprimés arrivés au centre. On a beaucoup marché, on allait dans le parc, on a beaucoup marché pour faire démarrer le travail. C'est un peu comme un déclenchement, hein, au final. Hein. Et puis 2 heures après, là, j'ai vraiment eu des contractions assez violentes. Et puis, j'ai expulsé tout ce que j'avais à expulser. C'était quand même assez, assez traumatisant de tout voir et de...
Bien sûr.
De tout voir et de tout ressentir, les douleurs. Voilà. Mais j'avais besoin de ça. On m'a laissé le choix entre soit le curetage, soit cette prise de médicaments. Et j'ai voulu faire ça pour faire mon deuil, en fait, pour le voir, pour le voir sortir et pour pouvoir faire mon deuil. Alors, suite à ça, je suis allée voir ma gynéco et je lui ai dit, je veux faire des examens, je veux tout faire, je veux faire un bilan post-fausse couche. Alors, elle m'a dit, bon, vous avez fait une fausse couche précoce en 2019, là, c'est une fausse couche un petit peu plus tardive, j'étais à 9 semaines. C'est vrai que généralement, on fait ces analyses à partir de 3 fausses couches. Mais comme dit, elle a toujours été très ouverte et très à l'écoute de ce que je voulais. Et puis elle m'a dit, bon bah ok, on fait les analyses. Donc à ce moment-là, on a fait les analyses. Donc c'était cet été, hein, donc l'été 2021. On a fait les analyses et en fait, on a découvert que j'avais des maladies auto-immunes. Donc un lupus, c'est un syndrome des antiphospholipides. Plus une mutation génétique, donc la mutation MTHFR. Et en fait, ces trois combinés font des thromboses, en gros des caillots qui compliquent la grossesse. Et donc, moi, dans la vie de tous les jours, je n'ai aucun symptôme. Par contre, mes symptômes sont obstétricaux. Donc, en gros, ça complique les grossesses, notamment le début et la fin de
Oui, ça peut
grossesse. Donc,
provoquer des fausses couches. Et ça, tout ça, c'était des prises de sang plus poussées.
oui, tout à
Oui,
fait. Des
tout à
prises de
fait,
sang plus poussées. Donc là, à l'heure actuelle, je suis suivie par un immunologue qui m'a dit ben, effectivement que je serais sujette aux fausses couches et aussi ben, à la fin de la grossesse, de tout ce qui est pré-éclampsie, tout ça, et que donc ben, je ne pourrais pas aller au terme de ma grossesse, que je serais obligée d'accoucher à maximum 37 semaines. Donc, ce diagnostic-là, donc ok, bon ben très bien. Il m'a donné aussi un traitement adapté que je dois prendre 8 semaines avant un début de grossesse. Donc voilà, il m'a assez rassurée en disant que ce traitement était plutôt efficace. Donc voilà, j'étais assez rassurée. Et puis, du coup, on avait rendez-vous avec la sage-femme au mois d'octobre pour programmer la prochaine FIV. Et entre-temps, ben, j'ai pris de ma propre initiative la décision d'aller voir, de consulter une généticienne. Et cette généticienne nous a demandé de faire des analyses un peu plus poussées, notamment du côté de mon mari, pour savoir pourquoi, au final, il avait cette maladie, donc cette OATS. Donc en fait, on a fait plusieurs analyses et donc ce qui en est ressorti le plus important et qui est le plus qui va rendre les choses extrêmement compliquées, c'est que ben on a découvert que mon mari était porteur du gène de la mucoviscidose. Donc il est porteur sain, il ne sera jamais malade. Parce que il a juste un gène. Et pour avoir la maladie, il faut avoir les deux gènes.
Tout à fait.
Donc voilà. Et en fait, c'est cette mutation génétique qui explique que mon mari est OATS. Voilà. Donc on a une explication. Et puis on a ce diagnostic. Et puis là, la généticienne me dit, bah, il faut que moi aussi je sois testée sur cette mutation parce que ben, si j'ai aussi cette mutation de la muco, que je suis aussi porte-saine, il y a un risque que notre enfant soit malade en fait de la mucoviscidose. Donc je fais cette recherche de mutation génétique et en fait il s'avère que je suis également porteuse saine de la maladie de la mucoviscidose. Donc, ça va rendre les choses très compliquées puisque en fait, on a un risque sur quatre que notre enfant soit malade de la mucoviscidose. Voilà, donc on avait plusieurs possibilités, notamment de faire une FIV DPI, mais avec un délai d'attente de minimum 2 ans. Donc, nous avons décidé de quand même faire la prochaine FIV qui est programmée là incessamment sous peu et de faire du coup ce qu'on appelle une biopsie de trophoblastes. Donc, c'est comme une amniosynthèse, sauf plus précocement dans la grossesse. Donc, à 12 semaines, j'aurai cette biopsie de trophoblastes pour voir si le bébé est atteint de la mucoviscidose ou pas. Du coup, si là, les deux gènes, ben, nous serons amenés à faire une UNIMG, une interruption médicale de grossesse. Et sinon, ben, la grossesse pourra continuer avec tous les risques que j'aurai suite à mes maladies auto-immunes.
D'accord, d'accord. Bon, je dirais, un peu le coup de massue et qui là doit être sacrément digéré.
Ah oui, bien sûr. Alors, c'est sûr que c'était un gros coup de massue, cette annonce de nouveau. En fait, j'ai l'impression d'être un clou qui, on donne un coup de marteau, le clou, il ressort, on redonne un coup de marteau, enfin, continuellement. Mais très honnêtement, je suis extrêmement heureuse et reconnaissante qu'on ait pu découvrir qu'on était tous les deux porteurs sains. Parce que si on avait eu un enfant atteint de cette maladie, ça aurait été une catastrophe, surtout que nous avons tous les deux le gène, la mutation du gène qui donne la forme de la maladie la plus grave. Donc l'espérance de vie de cet enfant n'aurait pas été très grande, avec sans doute une éviction pas du tout de scolarité, pas de mélange avec les cousins cousines, enfin voilà, pas de collectivité du tout. Donc ça aurait été ouais, terrible pour l'enfant.
Ah oui, ouais, c'est terrible. Écoute, en tout cas, merci pour tes explications, parce que c'est aussi pour cela que j'avais envie de te faire témoigner, de voir que, bon, on le sait que ces parcours sont difficiles, mais il y a plein d'obstacles, mais il y a aussi des avancées. Tu apprends des choses, tu as fait les examens aussi nécessaires pour comprendre ce qui se passe et avoir les diagnostics, aussi cruels soient-ils. Après, malgré tout ce qui arrive, moi, je retiens aussi cette combativité que tu as, toi, avec ton couple, et le soutien que vous avez avec cette gynécologue qui vous suit et qui n'a pas l'air de vous lâcher. Et ça, c'est vraiment hyper important. Et j'ai envie de te demander comment toi, tu vis comment tu vois ton futur?
Ben, c'est vrai que ce futur, il est assez angoissant, en se disant, ben en fait, j'ai pas forcément envie de subir une IMG, hein. Clairement, j'ai vraiment peur de subir ça, avec toutes ces souffrances, ben, physiques et psychologiques aussi, hein. Mais en même temps, je me dis, ben, on a de la ressource, on a beaucoup de ressources, mon mari et moi, on est très soudés. Je pense que ça a été très positif qu'on doive passer par ces combats-là, mon mari et moi, parce qu'on est plus soudés que jamais. On est plus ouais, voilà, ça a décuplé énormément de choses, et voilà, on est très combatifs et on va y aller, et clairement on se battra jusqu'au bout.
On se battra jusqu'au bout, oui. Merci beaucoup, Pauline. À bientôt.
À bientôt, Marianne.